VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les Maliens retournent aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. La finale oppose le chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta au candidat de l'opposition Soumaïla Cissé. L'opposition malienne qui a accusé le pouvoir d'avoir profité de l'insécurité dans le nord et le centre pour manipuler le vote au premier tour le 29 juillet dernier. La mission d'observation de l'Union européenne a réclamé davantage de transparence ainsi que la garantie que tous les électeurs auront accès dimanche au bureau de vote, ce qui a valu un rare rappel à l'ordre du ministère malien des Affaires étrangères qui a demandé à l'Union européenne de ne pas entraver le processus électoral. Toujours au Mali, un rapport de l'ONU indique que les forces de sécurité ont tué des civils. Des dizaines de personnes ont été exécutées sommairement dans des opérations contre des islamistes présumés. Morgan Guirec fait le point.
Dans un rapport envoyé au Conseil de sécurité, des experts onusiens dénoncent une répétition inquiétante de violations des droits de l'homme par les forces de sécurité maliennes. Le document cite 3 attaques sur des civils, dont une qui a fait 12 morts en mai dernier dans un marché aux bovins à Boulkessi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Bamako avait parlé d'une œuvre de terroriste avant de se rétracter suite au tollé provoqué par des proches des victimes. Le rapport précise qu'à la fin avril, la MINUSMA a mené des enquêtes sur des accusations portant sur 44 exécutions sommaires et 3 disparitions forcées. Il y a eu aussi la découverte récente de 3 charniers près de Mopti où ont été trouvés les corps de 25 civils arrêtés à leur domicile. Le gouvernement a lancé des enquêtes. Le ministre de la Défense avait même reconnu l'implication de l'armée, mais aucune mesure n'a été prise contre les soldats impliqués.
L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, libérée mercredi à Abidjan, va engager une procédure en annulation devant la Cour pénale internationale, la CPI, qui la poursuit pour crime contre l'humanité, a annoncé aujourd'hui son avocat, maître Rodrigue Djadje. Madame Gbagbo, condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, a bénéficié à l'instar de 800 personnes d'une amnistie décrétée lundi par le président ivoirien Alassane Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais elle reste poursuivie par la CPI qui a délivré contre elle un mandat d'arrêt. C'était en février 2012.
VOA Afrique en direct de Washington.
Direction le Zimbabwe, la justice a accordé une libération sous caution à l'opposant Tendai Biti. Quelques heures auparavant, il avait été expulsé de Zambie après le rejet de sa demande d'asile. Abdourahmane Dia fait le point.
La justice zimbabwéenne lui a accordé une liberté sous caution, assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques et d'une obligation de se présenter 2 fois par jour à la police. La lutte continue, a lancé Tendai Biti à sa sortie du palais de justice à Harare. Il était arrivé plus tôt, menottes aux mains et sous forte escorte policière. La veille, il avait traversé à pied la frontière avec la Zambie. Lusaka lui a refusé l'asile avant de l'extrader vers son pays. M. Biti, 52 ans, ancien ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale de 2009 à 2013, a été présenté au juge qui l'a accusé de proclamation illégale des résultats électoraux. Il avait annoncé que Nelson Chamisa avait remporté le scrutin du 30 juillet en défiant la commission électorale d'annoncer un résultat différent. Son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, va déposer aujourd'hui un recours contre ces résultats qui donnent la victoire au président sortant Emmerson Mnangagwa.
En République démocratique du Congo, les catholiques congolais à l'origine de 3 marches anti-pouvoir en début d'année reportent la grande mobilisation prévue de dimanche à mardi contre le président Joseph Kabila. Ils saluent le geste de bonne foi du président qui s'est choisi un dauphin pour la présidentielle du 23 décembre 2018 en conformité avec la Constitution qui interdit un 3e mandat présidentiel. Jonas Tchombela, membre du comité laïque de coordination à Kinshasa, appelle le gouvernement à faire un peu plus.
En signe de bonne foi, le comité laïque de coordination, qui défend les intérêts de la population congolaise, accepte aussi de donner un signal fort et provisoirement, temporairement, de sursoir son programme d'action du 12, 13, 14 août pour faire preuve de bonne foi et encourager davantage le chef de l'État et la CENI de prendre des dispositions utiles et nécessaires et urgentes pour garantir au peuple congolais le droit des élections libres, inclusives et transparente. Notre combat en ce moment précis va prendre la direction de la crédibilisation du processus électoral qui doit devenir un processus inclusif, apaisé, dont les résultats seront acceptés par toutes les parties prenantes.
Jonas Tshiambela, membre du comité laïque de coordination en RDC. Réchauffement Paris et Kigali, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a estimé dans un entretien avec l'agence France Presse avoir observé beaucoup de bonne volonté en France dans les rapports avec le Rwanda depuis l'arrivée au pouvoir en 2017 du président Emmanuel Macron. Les relations entre Paris et Kigali sont particulièrement tendues depuis près d'un quart de siècle en raison des accusations rwandaises sur le rôle joué par la France dans le génocide de 1994 au Rwanda, ayant fait quelque 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Madame Mushikiwabo est soutenue par la France pour devenir la prochaine secrétaire générale de l'OIF, qui sera désignée au sommet de la francophonie les 11 et 12 octobre en Arménie. En Centrafrique, l'assassinat de 3 journalistes russes continue de susciter des interrogations. Au-delà de ce fait divers, c'est la présence russe dans le pays qui suscite des interrogations. En effet, des militaires russes assurent déjà la protection du président Touadéra et une société de sécurité opère aussi en Centrafrique, y compris dans les territoires tenus par les groupes rebelles. Pour un éclairage, Nicolas Pinot a joint Mikhail Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense dans la capitale française.
On commence à reparler de la présence russe en Afrique, mais il faut quand même relativiser. Juste un élément, quelques chiffres, le commerce entre la Chine et l'Afrique en 2017, c'est 170 milliards de dollars. Le commerce entre la Russie et l'Afrique, c'était en 2017, 13,8 milliards de dollars, dont 3,5 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Bref, c'est 10 fois moins que le commerce entre la Chine et l'Afrique. Il y a quelques points d'ancrage de la Russie en Afrique, le Maghreb et l'Égypte, aussi l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, mais la Russie développe aussi des rapports avec d'autres États d'Afrique centrale et un peu dans l'Afrique de l'Ouest.
Quel intérêt pour Moscou de renforcer ses liens avec le gouvernement centrafricain ?
Ce n'est pas un secret, la République centrafricaine n'est pas un État très riche, mais côté enjeu économique, l'or et les diamants, ce n'est pas un enjeu crucial. La Centrafrique, c'est aussi le pétrole, et il y a des réserves de pétrole assez importantes dans le nord du pays, à la frontière avec le Tchad. Pour le pétrole, le problème, c'est l'enclavement. Si on commence à exploiter le pétrole d'une manière importante, il faudra désenclaver et construire des oléoducs. Enfin, c'est l'uranium, le fameux gisement de Bakouma qui a été découvert par les experts français après la guerre. Tout le saga d'Arriva, mais la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec le gisement de Bakouma? Est-ce que les Russes cherchent à se positionner d'un côté stratégiquement et aussi de se positionner par rapport à l'exploitation des richesses naturelles de la République centrafricaine?
Michael Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris. Vous suivez VOA Afrique. 3 entreprises sud-coréennes ont importé du charbon et du fer de Corée du Nord ont annoncé aujourd'hui les douanes sud-coréennes dans une apparente violation des sanctions de l'ONU imposées contre Pyongyang. Plus de 35 000 tonnes de charbon et de fer nord-coréen ont été ainsi importées au sud via la Russie entre avril et octobre 2017, a précisé un responsable des douanes. Tout navire qui est soupçonné d'avoir violé les sanctions de l'ONU sera immobilisé ou interdit d'entrer dans les ports sud-coréens. Et puis la Russie va considérer comme une déclaration de guerre économique l'adoption d'une possible deuxième salve de sanctions américaines et y réagira avec tous les moyens à sa disposition, a averti aujourd'hui le premier ministre russe Les États-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions économiques visant notamment la Russie en lien avec l'empoisonnement d'un ex-espion à l'agent énervant au Royaume-Uni et évoqué la possibilité d'une deuxième vague de sanctions draconiennes dans le futur. Le Kremlin avait dénoncé jeudi l'annonce de la première salve de sanctions américaines qui porteront sur l'exportation de certains produits technologiques comme inadmissibles, inamicales et illégales et promis une riposte. Le prochain journal dans 50 minutes et ce sera avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.